Vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par votre serviteur Dominique Tasso. Les thèmes que nous allons aborder sont, dans l'ordre, les martyrs de Pouzauges, un massacre oublié durant les guerres de Vendée, avec comme invité le docteur Jean-Maurice Clerc, et une occultation mémorielle lors du dernier 11 novembre avec Marie-Pauline Desvart, professeure de droit public, qui est collaboratrice de l'action familiale et scolaire. Alors, il s'agit d'une émission en direct et vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques ou vos compléments d'information par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et avant de donner la parole à notre invité, le docteur Jean-Maurice Clerc, je voudrais mentionner qu'il s'est tenu hier un colloque universitaire à rue de Sèvres, à Paris, sur le centenaire de l'année 1926, avec deux grands faits au programme. Le matin, c'était l'Action française, condamnée ou condamnable, point d'interrogation, où sont intervenus Philippe Pichot-Bravard, maître de conférence en histoire du droit, Philippe Prévost, docteur ès lettres et historien, sur la question des origines intellectuelles de la condamnation de l'Action française et du thomisme. Et là, c'est un point, la condamnation du thomisme, c'est un point peu connu, qui d'une certaine façon n'a jamais été rapporté et qui méritait vraiment d'en parler, et qui mériterait d'ailleurs même peut-être un jour une émission complète, parce que c'est vraiment très important. Ça explique énormément de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église au XIXe et au XXe siècle. Et nous avions l'après-midi, et c'est pourquoi j'en parle dès cette émission qui va parler des martyrs de Pouzauges, donc de la Révolution française et des Chouans. Nous avions une après-midi concernant les Cristeros. Alors les Cristeros sont justement les Chouans mexicains qui, en 1926, se sont révoltés contre les lois liberticides qui avaient été votées au Mexique déjà à partir de la Constitution de 1917, mais même avant. Et il y a énormément d'analogies entre la révolte paysanne de Vendée et la révolte paysanne des Cristeros au Mexique. Donc ça, il sera, je pense, intéressant de le faire remarquer chemin faisant. Donc intervenait sur ce thème des Cristeros le professeur Yves Solis, qui est un professeur d'histoire qui vit au Mexique, qui enseigne à l'Université de Mexico, et qui nous a parlé du contexte socio-religieux et des différentes formes du mouvement Cristeros. Parce qu'il y a effectivement, il y a le mouvement paysan qui est le plus connu, puis il y a aussi le mouvement des ligues dans les villes mexicaines. Et il y a des répercussions internationales de ce drame Cristeros. Intervenait aussi l'abbé José Oscar Neri, professeur normaliste, qui lui-même est mexicain, et dont le grand-père a été fusillé parce qu'il était Cristeros, mais a été fusillé bien après la révolte des Cristeros. Alors ça, c'est aussi une chose qui est peu connue, c'est que la révolte des Cristeros a duré 3 ans, 1926-1929, mais comme on avait demandé aux Cristeros de rendre les armes, le gouvernement républicain n'a évidemment jamais tenu parole, et les arrestations, les fusillades ou les simples assassinats d'anciens Cristeros ont continué bien après la Christiade, ce qui a provoqué d'ailleurs une deuxième Christiade en 1929. Et il semble qu'il y ait eu, on en ait eu encore jusqu'en 1971. Donc vous voyez l'importance de ce mouvement. Et il y avait donc en fin de journée du CEP, alors ce colloque international organisée par le CEP, donc se concluait par une conférence de l'abbé Jacques Olivier sur le Pie XI, parce que évidemment c'est le pape Pie XI qui est l'homme clé derrière les deux événements, la condamnation de l'Action française et la question des Christéros. Et puis les propos de conclusion étaient donnés par Guillaume Bernard, qui est maître de conférence en histoire du droit, et que je pense certains auditeurs doivent connaître. Donc, ceci nous amène aux guerres de Vendée, et là, nous allons dans quelques instants avoir en ligne le docteur Jean-Maurice Clerc, mais je vois que l'image passe et le son passe-t-il. Jean-Maurice Clerc, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends très bien, Dominique.
C'est parfait. Donc, je rappelle aux auditeurs que vous êtes docteur en odontologie, mais ce qui vous amène à ce micro, ça pourrait être d'ailleurs vos travaux sur les médicaux, mais c'est tout autre chose, c'est la découverte à Pouzauges, c'est-à-dire le village où vous êtes, vous avez exercé pendant 40 ans, d'un événement oublié. Et donc, je vous propose donc, en entrée, peut-être avant de parler directement des martyrs de Pouzauges, de nous donner, de tracer un petit, de manière un peu générale, ce qu'il faut connaître des guerres de Vendée pour comprendre ce que vous allez raconter sur Pouzauges.
Bien sûr, pour connaître un événement, il faut le replacer dans son contexte. Et le contexte, c'est la guerre de Vendée, et particulièrement l'année 1793. Les Vendéens se sont soulevés au printemps à la suite de l'exécution du roi Louis XVI et des mesures tout à fait défavorables qui ont été prises, comme la constitution civile du clergé et surtout la réquisition des jeunes gens pour aller combattre et défendre la République aux frontières. Donc il s'est fait un premier soulèvement spontané contre cette réquisition. Et bien sûr, il y a une répression et ça a déclenché tout un mouvement de révolte qui était latent. Mais c'était surtout la question religieuse qui était dessous. Et donc c'est toute une population sans chef qui s'est soulevée et qui a été chercher ses chefs là où elle pouvait. Souvent c'était des hommes de stature, de bonne reconnaissance humaine, et parfois des nobles qui avaient une connaissance de la guerre. Alors s'en est suivi immédiatement une répression.
Alors ça, je vous interromps, parce que c'est justement une différence entre les Christéros et les Chouans. C'est que les Christéros, oui, c'est une révolte paysanne qui, au début, a mis très longtemps à se découvrir un chef. Hein, et ce chef a fini par être... donc c'était ils sont allés recruter en le rémunérant un militaire professionnel qui n'était pas croyant, d'ailleurs, mais qui s'est mis comme un mercenaire au service de la cause Christéros et qui, au fur et à mesure du temps, évidemment, a compris toute l'importance que ça avait. Mais donc ce Gorostieta est un personnage très intéressant parce que, justement, il a donné à cette révolte paysanne l'organisation qui lui a permis de faire face pendant 3 ans aux armées de la République mexicaine. Je veux dire, c'est quand même, même sur le strict plan militaire, c'est quelque chose de tout à fait remarquable.
Là, nous avons une révolte spontanée qui a touché toute une région énorme qu'on a appelée la Vendée militaire, mais qui en fait était le sud du département de Loire-Atlantique, le sud du département de Maine-et-Loire, l'ouest du département des Deux-Sèvres et la Vendée, particulièrement dans sa partie centrale et la partie est. Donc tout ça ne faisait qu'une seule région qu'on appelait la Vendée militaire. Ce soulèvement étant spontané, il leur manquait des chefs. Alors ils ont d'abord élu des chefs de paroisse. Et quand ils allaient se battre, bon, c'est pour éviter le grand désordre, le chef de paroisse était avec ses paroissiens et donc se connaissaient tous. Et ensuite, ils ont cherché des chefs. Mais ces hommes en sabots et souvent armés simplement de piques ou de bâtons ou de fourches ont combattu une armée qui était quand même aguerrie et dont certains bataillons revenaient du front de l'Est, de la France de l'Est.
Et est-ce
Donc,
que, une question, est-ce que
c'était.
cette armée avait des canons?
Non, absolument pas.
Là, non, l'armée
L'armée
des bleus, les
républicaine en
bleus.
avait.
Est-ce que les
L'armée
bleus?
républicaine en avait.
Oui.
Les Vendéens n'avaient rien. Et quand. Une anecdote, quand à la bataille de Saumur, un officier républicain est passé du côté vendéen, parce qu'il était royaliste au fond de son cœur, mais il a dit, vous avez des chefs, vous avez un général. Non. Mais vous avez. Qui vous donne des ordres? Personne. Est-ce que vous avez des munitions? Non, on les prend l'ennemi. Et vos armes? Bon, on les prend l'ennemi. Et il était complètement étonné de voir une armée aussi hétéroclite gagner des batailles sur des armées qui étaient organisées avec des fusils et des canons et des cavaleries. Donc les cavaleries, leurs chevaux, à part leurs chevaux de trait, qui n'étaient pas très nombreux, c'était ceux prêts, tout était prêt à l'ennemi.
Alors ça, c'est la même chose chez les Cristeros. Hein,
Oui.
alors, les l'ennemi, mais de deux façons. C'est-à-dire, l'armement est venu alors, par les prises de guerre, évidemment, sur les républicains qui se repliaient, et par la corruption des chefs militaires. Alors là, c'est l'action des ligues féminines qui achetaient des armes enfin, là où c'était possible. Par corruption dans l'armée officielle et qui s'arrangeait pour transporter secrètement ses armes, ses munitions et les munitions vers les camps des Cristeros.
Donc, devant cette population et cette armée très hétéroclite, extrêmement mobile, puisqu'ils étaient capables, on l'a vu, de parcourir 120 km à pied en une journée. Donc, ils allaient surprendre l'armée d'une manière extraordinaire, parce qu'ils ne s'attendaient pas à toutes les attaques. Alors, là, il y a eu une répression militaire. Quand les militaires sont venus extrêmement féroces, ils ne savaient pas trop à qui s'attaquer. Et quand on leur signalait des groupes ou des bandes de Vendéens, ils allaient, mais ils massacraient tout ce qu'ils trouvaient, mais ils brûlaient les villages, tout ce qui était sur leur chemin. Donc la population, immédiatement dans son ensemble, s'est révoltée. Et il n'y avait que les républicains qui, eux, ne bougeaient pas en se disant, c'est les copains, c'est nos amis, ils viennent nous délivrer de ces catholiques, de ces. On leur a mis tous les noms, vous n'avez pas idée de. On leur a dit, Turreau, quand il a écrit ses mémoires, parce qu'il n'avait pas eu assez de résultats dans ses colonnes infernales, il a écrit un livre pour se défendre et traiter les Vendéens d'animaux humains. Bon. Et des hommes qui étaient plus animaux que humains, qui sortaient de l'animalité, etc. Bien sûr, guidés par des prêtres fanatiques et des femmes fanatiques. On ne parlait pas des nobles ni des émigrés. De temps en temps, mais c'était surtout, ils en avaient après les femmes et les prêtres.
Parce que on sait bien que les colonnes infernales, on détruisait et tout sur le passage, mais avant les colonnes infernales, il y avait déjà des massacres collectifs, sans trop chercher à savoir quelle était la responsabilité de ceux qu'on tuait.
Oui, les massacres étaient sporadiques, mais ils étaient constants. Et il faut pas oublier qu'il y a eu la loi du 1er septembre, qui était la loi de l'anéantissement de la Vendée. Là, l'Assemblée a décidé d'anéantir la Vendée. Au 1er septembre, il y a eu une loi d'arrestation qui faisait que toute personne soupçonnée d'être vendéen, on les appelait d'abord les brigands, donc d'être des brigands, était arrêtée. Et ensuite, il y a eu la loi du 1er octobre qui a été la loi d'extermination, c'est-à-dire que on exterminait sur une simple dénonciation sans jugement. C'était plus expéditif parce que les prisons étaient pleines, on ne savait pas quoi faire de tous ces gens qu'il fallait nourrir en plus. Bon, imaginez, à Fontenay-le-Comte, il y avait 4000 personnes, et comme il n'y avait pas cette place dans les prisons, on les enfermait dans les caves des troquets et autres maisons où il y avait des caves, on les enfermait là en attendant d'être jugés et exécutés. D'ailleurs, les jugements, si on voit à Angers, où Hens jugeait 10 heures par jour, il était exténué, mais un jugement, ça prenait 10 minutes, c'était le temps de prendre l'identité et c'était une condamnation à mort de toute façon.
Mais à propos de ces lois d'anéantissement, justement, il y a une remarque très importante qui a été faite hier par Reynald Secher, en disant, c'est la première fois dans l'histoire que l'on voit d'une certaine façon, un anéantissement légal des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont.
Oui, c'est ça, exactement. Il fallait éliminer la Vendée, éliminer les Vendéens, pour en faire une terre de friche, pour en faire une colonie. C'est dans les textes, pour faire une colonie qu'on va donner aux patriotes. On régénère l'humanité avec la Révolution française. Et les Vendéens, n'acceptant pas la Révolution, selon Jean-Jacques Rousseau et, la Renaissance, enfin le système évolutionniste qui se mettait en place, ils n'avaient pas encore atteint le stade de l'humanité complète. Et comme ils refusaient, ils voulaient rester au stade animal, donc ce n'étaient pas des hommes totalement, donc on pouvait les tuer. C'était ça dans leur logique, et quand on lit les textes, c'était ça. Et ce qui fait que tous ces gens-là, donc la population s'est complètement soulevée, mais devant les exactions, il s'est passé une chose extraordinaire. Les gens ont quitté leur village pour suivre les groupes armés, parce que derrière les groupes armés, des brigands, c'était le nom qu'on donnait aux Vendéens, ils avaient la sécurité. Tandis que restant dans leur village, eh bien les armées passaient, massacraient tout le monde et brûlaient. Et alors, il s'est arrivé au mois d'octobre, à la bataille de Cholet, vers le 17 octobre, il y avait 30 000 combattants de chaque côté, mais derrière les 30 000 combattants vendéens, il y avait entre 50 000 et 80 000 personnes civiles qui suivaient l'armée pour avoir sa protection. C'est-à-dire toute une population fuyait ses villages et les bourgs pour avoir sa protection sur l'armée qui, elle, se déplaçait pour se battre. Et comme à Cholet, c'était un échec, eh bien, à ce moment-là, les chefs vendéens ont décidé de passer la Loire pour rejoindre les Chouans, qui étaient bretons, pour rejoindre donc le mouvement insurrectionnel breton. Il ne faut pas oublier que pratiquement 90% de la France était en état insurrectionnel, mais pas toujours violente. Et donc, ils ont passé la Loire, et en fait, une fois la Loire passée, où il n'y a eu pratiquement pas de noyés, il y avait une colonne humaine de 18 kilomètres, et on pense qu'il y avait plus de 100 000 personnes dans cette colonne. C'est-à-dire que la Vendée s'était vidée de 100 000 habitants pour trouver une protection. Et alors, le but de cette colonne, puisqu'ils ont refusé de marcher sur Paris, c'était d'aller de délivrer le port de Granville pour permettre aux nobles et à l'Angleterre d'apporter des munitions et des officiers français qui pourraient les aider à combattre, parce que c'était ça leur problème. Et alors, ça ne s'est pas fait, bien sûr. C'est les Anglais par derrière, ça ne va pas plus loin. Et alors, ils ont donc erré, ils ont traversé la Bretagne, le Maine, ils ont le sud de la Normandie, jusqu'au Mans. Ils ont fait 4000 kilomètres en un mois, si vous vous rendez compte. Et ça, dans la mauvaise saison, en automne, donc dans la boue, en sabots, c'était ce qui fait que quand ils sont revenus pour essayer de retraverser la Vendée, c'était une population survivante qui était en guenille, et on les appelait les puants, parce qu'ils se dégageaient une telle odeur de cette colonne humaine. Et au Mans, ils se sont fait avoir, ils étaient exténués. Ils ont à ce moment-là erré sur le long de la Loire sans pouvoir traverser parce que tous les bateaux avaient écoulé. Il y avait des canonnières. L'armée républicaine qui était en Vendée est montée vers les rives de sud de la Loire pour rattraper ceux qui passaient. Et ensuite, le reste de cette population, qui était peut-être réduit à 10, 15, 20 000 personnes, aéré le long de la Loire jusqu'à la côte atlantique, c'est-à-dire dans l'embouchure à Savenay, c'était des marécages. Et alors là, le 23 décembre, ils ont été exterminés par l'armée qui était en Bretagne, qui s'était concentrée. Et on a les déclarations, par exemple, du général Westermann, que je peux vous lire, à la suite du 24 décembre. Il dit « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre avec femmes et enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay, suivant les ordres que vous m'aviez donnés. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas de prisonniers à me reprocher, j'ai tout exterminé. Les routes sont semées de cadavres, et il y en a tant que sur plusieurs points, ils font des pyramides. On fusille sans cesse, car à chaque instant, il arrive des brigands qui se rendent prisonniers. Et oui, on leur avait promis la vie sauve, mais on les a fusillés. Le général Kléber et Marceau ne sont pas là. Nous ne faisons pas de prisonniers. Il ne faut pas leur donner le pain de la liberté et la pitié n'est pas révolutionnaire. Savenay est à nous. Nous y fîmes une boucherie horrible. Etc., etc. Et Carrier, qui était à Nantes pendant ce temps-là, il disait « Je n'ai jamais tant ri quand je tue les prêtres. Faites comme moi. » Je pourrais vous lire sa citation, mais c'est absolument horrible d'entendre ces choses-là. Voilà,
Et surtout
donc.
quand on pense que c'était avec l'approbation complète
Ah oui, tout à
du
fait.
gouvernement. Et à ce point que là, je voudrais mentionner le Gracchus Babeuf. Alors, Gracchus Babeuf était un révolutionnaire, hein, convaincu, et il a dénoncé lui-même ce qu'il appelait la politique de dépopulation de la Vendée. Parce qu'il
Oui.
disait, alors évidemment, on comprend dans tout, il comprenait très bien pourquoi il fallait dépeupler la Vendée, c'était pour faire la place pour des gens venant de l'extérieur et favorables à la Révolution. Mais justement, lui qui était révolutionnaire, était choqué par le fait que les Vendéens favorables à la République étaient tués comme les autres. Et donc, lui, il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on tue les brigands, mais évidemment, il était étonné de voir que les opinions, justement, de ceux qui étaient favorables à la République n'étaient pas pris en compte.
Oui. Je peux préciser que, à la suite de la loi du 1er octobre, cette loi d'extermination, on a ordonné à tous les républicains des zones insurgées de quitter ces zones de façon à ce qu'il ne reste que des insurgés. Donc, toute personne trouvée dans la Vendée militaire était un insurgé. Alors, il y a eu un exode quand même de plusieurs dizaines de milliers de patriotes qui ont été accueillis à la périphérie. Et les institutions récentes, c'est-à-dire les municipalités, donnaient des passeports pour les républicains, mais les brigands, c'est-à-dire la population, elle ne bénéficiait pas de rapport. Elle était fixée sur place. C'était comme pendant le Covid, elle ne pouvait pas bouger. Et alors ceux qui étaient même surpris dans les champs à cultiver étaient exécutés parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Et des gens qui allaient à la foire et qui n'avaient pas de passeport, s'ils étaient pris, ils étaient fusillés ou guillotinés. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, ne restaient en Vendée que les brigands. Alors, à ce moment-là, le général Turot n'a fait que mettre par écrit ce qui était pensé dans le gouvernement, c'est-à-dire l'extermination de la population. Donc, vidé, puisque les patriotes étaient partis, ce qui restait dedans, c'était mauvais, il n'y avait plus qu'à l'exterminer. Donc, il a envisagé de créer les colonnes, 12 colonnes, qui se sont nommées elles-mêmes colonnes infernales, pour ratisser le pays, donc environ 60 000 hommes, donc sur 6 000 hommes par colonne plutôt, et chaque colonne avait des trajets parallèles. Il y en avait 6 à l'est de la zone militaire, de la Vendée militaire, et 6 à l'ouest, et elles se rejoignaient comme un peigne passe dans les cheveux, c'est-à-dire que les soldats, les 6 000 soldats, se déployaient sur une dizaine ou une quinzaine de kilomètres jusqu'à la rencontre des soldats de l'autre colonne, et brûler toutes les fermes, tuer tous les habitants, se réserver des métairies pour pouvoir récupérer les fourrages, les grains et les bestiaux pour nourrir l'armée, et progresser selon un programme qui était prévu. Donc rien ne pouvait échapper parce que la population fuyait, elle était dans un autre endroit à tomber sur une autre colonne, alors la population se cachait comme elle pouvait, celle qui arrivait à échapper au massacre. Et Turot avait dit en 15 jours, on aura fini. Et au bout de 3 mois, il n'avait pas fini. Parce que quand même, il y a eu des réactions. Les combattants, ils étaient morts de l'autre côté de la Loire, mais ceux qui étaient restés ont pris les armes, eux aussi. Mais ils n'avaient plus le même tout à fait l'esprit. Eux, ils défendaient leur vie. Ils défendaient leur ferme. Tandis que ceux qui avaient passé la Loire, c'était leur foi qu'ils défendaient. Enfin, ce n'était pas absent de ces nouveaux combattants. Et
Alors là,
donc.
une question. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur, enfin démographique de ces massacres? Est-ce qu'on a réussi à avoir des chiffres de toutes
Précis.
ces morts?
Certainement pas. Mais on essaye d'évaluer. Alors, selon les auteurs, on varie du simple au double parce que toutes les archives ont été détruites. Pensez donc que je vois une petite bourgade à côté de Pouzauges où j'habite, où s'est passé le massacre. Eh bien, toutes les maisons ont été brûlées, sauf l'église et sauf le presbytère. Toutes les autres ont été brûlées. Pourquoi on gardait toujours les églises et le presbytère ou un château? Simplement, l'église servait à cantonner l'armée parce que c'était un lieu sécurisé, et puis un beau bâtiment pour les officiers. Et alors là, à Saint-Mémin, comme le maire était un médecin qui avait été engagé dans l'armée, Il a fallu y passer, lui aussi. Eh bien, grâce à une complicité, toute la population a pu s'enfuir la nuit. Et de sorte que quand ils étaient arrivés en fin d'après-midi, de sorte que le matin, bon, quand ils ont commencé à vouloir massacrer une trombe en personne, ils ont massacré la garde nationale, et puis la mairie, enfin la municipalité. Il n'y avait personne d'autre à massacrer, et puis ils ont mis le feu à toute la bourgade. Puis ensuite, ils se sont déplacés pour aller sur Pouzauges, et là, ils ont brûlé et massacré tout ce qu'ils ont trouvé, y compris les terres les métairies des matriotes, des patriotes.
Oui, et le bétail aussi était tué ou il était peut-être capturé.
Pardon?
Le bétail.
Ah, le bétail, eh bien, tous ceux qui n'arrivaient pas. Oui, ils ont eu des gros problèmes d'intendance, parce qu'ils avaient un ordre du jour très précis, et ils ont démarré le 21 janvier pour fêter l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Et alors, normalement, ils avaient des charrettes qui remplissaient d'une part des biens qu'ils volaient, des biens de valeur, donc dans les châteaux qu'ils avaient pillés, parce que c'était d'abord des pilleurs. Alors, il y a plein d'ordres qui disaient, en disant, on arrêtait de piller parce qu'on perd du temps. Des soldats se baladaient avec des sacoches pleines de bijoux qu'ils avaient trouvés sur les cadavres, ou des alliances, des petits colliers, des boucles d'oreilles. Et puis ensuite, bon, il fallait récupérer le foin pour nourrir les chevaux de l'armée et les grains pour faire le pain. Donc ils se nourrissaient sur le sol. Alors ça, on ne détruisait pas. Et normalement, l'arrière de l'armée venait récupérer tout ça et ensuite on mettait le feu aux métairies. Alors des fois, ils n'avaient pas le temps de le faire parce que les gens se cachaient, les hommes se cachaient dans les bois et puis ils n'osaient pas rentrer dans les bois. Il y avait un mot d'ordre d'abattre tous les arbres et de mettre les feux dans les bois, mais vous pensez bien qu'au mois de décembre, janvier, février, ça ne brûle pas tout ça. Donc les gens, il y avait des populations entières, il y avait des bois, si on prend Grasla ou près de Cholet, à Vezin, mais c'était 3 000 personnes qui étaient cachées dedans et pendant plusieurs mois, ils avaient reconstitué tout un village. Donc l'armée se servait tant et bien, et les soldats, et quand ils s'étaient bien enrichis, ils désertaient. Et les officiers aussi, parce que bon, les ciboires, s'ils étaient en or, ils se les gardaient pour eux. Ils en ont envoyé quelques-uns à Turop pour dire voilà, on arrive à attraper des choses, mais il y a eu des bons enrichissements. Et puis côté patriote, eh bien, avant d'être réfugié, eh bien, quand un brigand a été dénoncé, donc sans jugement, il était condamné, et alors automatiquement, ses biens étaient vendus. Et qui a racheté ça, ben c'était les copains patriotes. Alors il y a eu des fortunes qui se sont faites côté patriote, en plus. Enfin, c'est. Alors, vous me parliez du bilan. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de bilan, de fait. Alors, faut pas oublier, donc, les colonnes infernales, c'est au moins 80 000 morts.
Et les
Ensuite.
colonnes infernales, il y
Non,
a eu
pardon, la
l'équivalent, là,
verrée de Galerne. La verrée de Galerne, c'est entre 50, 80 000, 100 000, on ne sait pas trop. Et alors, pour l'anéantissement de la Vendée, on a eu plusieurs chiffres qui ont été avancés. On avait le professeur Chenu qui, lui, avance entre 200 000 et 400 000, en comptant les soldats. Le général Hoche, lui, il évaluait ça à 200 000 Vendéens. Jean-Clément Martin, lui, il évalue entre 220 et 250 000. Donc, vous voyez, c'est. Si nous prenons notre partie du bocage, la destruction par incendie, c'est de l'ordre de entre 80 et 98 %, et l'habitat, c'est un minimum de 75 %. 80 % selon les bourgades, parce que les gens fuyaient, ils arrivaient à se cacher. Tout était bon pour se cacher, il y avait des landes. Les soldats n'étaient pas courageux pour s'aventurer dans les landes de Genêt et d'Ajon, parce qu'ils savaient qu'il y avait des Vendéens de cachés dedans, comme c'était des bons terreurs. Des bons chasseurs, le Vendéen se levait, tirait, se recachait dedans, et donc ils évitaient les bois et les genêts. Donc c'est ce qui a sauvé la vie de pas mal de ces personnes. Il faut lire les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin, entre autres, où elle raconte ça dans sa jeunesse, comment elle se cachait.
Oui, c'est le
Donc,
bocage qui
oui,
permettait
c'est
évidemment
surtout le
de.
bocage, parce que les accidents de terrain étaient propices aux embuscades. Ensuite, les soldats n'étaient pas habitués à ça. D'abord, tuer une population civile, d'une part. Et puis ensuite, les soldats de carrière, il y en avait quand même un certain nombre, ils étaient habitués à certaines civilités. Quand il y avait une bataille, les chefs se rencontraient, on disait voilà, où est-ce qu'on va se battre? Tandis que là, les Vendéens leur sautaient dessus quand ils passaient dans les chemins creux. Évidemment, on pouvait pas. C'était des colonnes de 2-3 soldats avec, il fallait les chevaux dans un cheval mal empierré avec de la boue en hiver. C'était très difficile. Alors les Vendéens, eux, ils mettaient une peau de mouton sur eux et puis ils rampaient. C'est pour ça qu'on disait ventre à choux. Ventre à choux, ça veut dire ventre à terre. Et alors ils se noircissaient le visage de façon à ce que, en sautant sur l'armée, en poussant des cris, des hurlements, les soldats étaient effrayés. Et donc, ils avaient toutes ces techniques de guérilla, ce qui faisait qu'on disait, mais ce sont des animaux humains, mais ils n'ont pas la figure d'un homme, parce qu'ils faisaient comme dans les tribus nègres, ils se peignaient et tout pour avoir un air belliqueux, mais eux, ils se mettaient de la boue, et puis ils s'habillaient et poussaient des cris, donc c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas.
Oui, c'est une forme de guerre asymétrique. Enfin, d'une certaine
Oui.
façon, c'est peut-être eux qui ont inventé la guérilla. Alors,
C'est ça
hier,
exactement.
le professeur Solis de Mexico a dit que c'est les Cristeros qui avaient inventé la guérilla, mais du moins en Amérique latine. Donc, c'est les ancêtres des guérilleros du XXe siècle. Mais il y a effectivement ce côté parallèle, c'est-à-dire que le Mexique est extrêmement montagneux, et donc l'armée avait du mal à s'aventurer dans les montagnes, donc c'est pas le bocage, c'est la montagne, mais le résultat est le même. Et à propos de ces morts, justement, un auditeur, donc remercie qu'on parle de ces histoires dramatiques, hein, et demande si on peut parler des morts catholiques irlandais comme on parle des morts de Christeros. Alors, c'est un sujet, l'Irlande, c'est un sujet que, en ce qui me concerne, je ne connais absolument pas, mais je propose à cet auditeur d'entrer en contact avec moi et on pourrait peut-être faire un jour effectivement une émission parallèle sur l'Irlande. Ouais. Parce que c'est aussi une guerre asymétrique mais avec une connotation religieuse dans les motivations. Alors, on parle des combats, des soldats, des destructions, des colonnes infernales, de la manière dont, malgré tout, la population a pu survivre, mais dans des conditions absolument dramatiques. Qu'en est-il du clergé? C'est-à-dire, est-ce que... Parce que au départ, il y avait la question de la...
La question religieuse, oui,
Du clergé
fondamentale.
jureur et non jureur, il y a eu évidemment beaucoup de prêtres fusillés. Enfin, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu
Oui, oui,
cette
oui.
question?
En fait, je pense qu'il y avait un bon millier de prêtres en Vendée. Je n'ai pas cherché à avoir les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre d'un bon millier. Et 75% des prêtres ont refusé de faire la constitution civile du clergé et donc se sont mis dans la clandestinité. Les 25% ont été condamnés à l'exil et quelques-uns sont restés dans leur paroisse pour pas abandonner leurs paroissiens. Et ce sont les paroissiens qui ont abandonné le curé parce qu'au bout de 2-3 messes, quand ils ont appris qu'il n'était pas jureur, qu'il avait accepté la constitution civile du clergé, les fidèles n'allaient plus le voir, ils se trouvaient dans une église qui était vide. Et j'ai quelques anecdotes assez amusantes près de Pouzauges. Il y avait un hibou qui avait été enfermé dans l'église par hasard, je ne sais pas. Et quand le prêtre jureur a fait sa première messe, le hibou a volé et s'est posé sur le tabernacle en faisant ou ou. Alors les gens ont vu là un signe du ciel, ils ont dit voilà, c'est un signe du ciel qui ne veut pas la messe. Et tous les gens ont quitté l'église en courant. C'est bon, voilà, c'était le moindre prétexte. Et bien sûr, on leur faisait la guerre, on allait les voir, il fallait qu'ils aillent. S'ils n'allaient pas, ils étaient des brigands. À Pouzauges, donc 75% des prêtres sont entrés dans la clandestinité. J'ai les chiffres exacts, c'était 732 prêtres réfractaires.
Alors, en
Ils sont
pratique,
entrés dans la clandestinité.
que
Et dans la
signifie...
région de Pouzauges, il y avait 40 prêtres réfractaires. Et sur Pouzauges, il y en avait 8. Enfin, sur l'équivalent du canton de Pouzauges, sur la paroisse de Pouzauges, il y en avait 8. Alors, au mois de décembre, on était déjà dans l'esprit des colonnes infernales, mais les colonnes infernales n'ont commencé que le 21 janvier. Mais déjà, les massacres se faisaient sporadiquement, c'était dans l'air. Et à Pouzauges, il y avait un curé qui était un curé révolutionnaire, s'appelait Dominique Dillon, qui a fait partie du tiers-État, qui a participé à la constitution civile du clergé, qui a voté la mort de Louis XVI, qui était le premier président du département. Enfin, c'est un homme très actif. Alors lui, sur Pouzauges, il avait la main basse avec les Républicains. Il avait la main basse sur la population pouzaugeaise. Et la population pouzaugeaise était une verrue pour la Vendée, puisque c'était un bourg qui était protestant. Les protestants avaient pris la ville avec la complicité de la petite seigneurie de Pouzauges pour avoir la commande du pays et tenaient la commande du pays jusqu'à la Révolution. Alors, et bien sûr, ils ont viré côté patriote, puisque c'était leur anti-royalisme qui prédominait. Et la population de Pouzauges faisait quoi, entre 25 et 30%, la population catholique. Donc à Pouzauges, la population catholique était minoritaire et avait été brimée depuis le protestantisme, depuis 1563. Et donc, les protestants et les révolutionnaires ont commencé à s'exiler dans le sud Vendée, et il y avait un statu quo. Ça se passait dans le nord de la Loire, parce que tous les Vendéens, y avait la verrerie de Galerne qui essayait de passer, de revenir, et puis les Vendéens qui avaient repris le flambeau dans les combats se remontaient pour essayer de délivrer la rive de la Sud-Vendée pour permettre aux Vendéens de passer. Et Pouzauges se trouve à la fois à mi-hauteur du département, c'est-à-dire entre c'est le Bas-Poitou, c'est-à-dire entre l'influence du Saintonge, c'est de La Rochelle, déjà du sud de la France, et l'influence de l'Anjou et de la Bretagne. Pouzauges se trouve entre les deux, exactement à équidistance de Nantes, Angers, Niort, La Rochelle. Et donc, Pouzauges était devenu relativement calme, parce que proche des grandes places fortes militaires.
Alors avant de parler abondamment de Pouzauges, comme nous allons le faire, j'ai une question qui
Oui.
concerne les Bleus. Quel était le profil des soldats bleus? C'est-à-dire
Oh ben alors tout.
de leur origine, enfin, parce que qu'est-ce que ça représentait pour eux d'être dans l'armée républicaine? Est-ce que c'était une armée de mercenaires ou plus ou moins une armée de conscription? Comment est-ce que ça marchait?
C'était pas une armée comme un pays aimerait en avoir, parce que c'était une armée extrêmement hétéroclite. Beaucoup de chefs étaient des nobles qui cachaient leur titre de noblesse. Pourquoi, je ne sais pas. Mais dans notre coin, c'était un noble, des marais, des Stémoville, quelque chose comme ça. Et
Remarquez,
dont le père était
ça c'est un
le.
trait commun, là, je vous interromps, mais avec les
Oui.
Cristeros et avec les bolcheviks. L'armée rouge était commandée par un grand nombre d'anciens officiers du Tsar.
Voilà. Donc, ils y trouvaient leur compte. Et alors, après ça, bon, évidemment, les nominations étaient très rapides, parce qu'un boucher devenait facilement général ou capitaine ou commandant. Mais les hommes de troupe, c'était ceux qui restaient des soldats de l'armée royale. C'était surtout les idéalistes et les révolutionnaires qui voulaient porter la révolution en Vendée. Ensuite, c'était des gens qui s'engageaient dans l'armée pour toucher de l'argent, parce que ils étaient trop pauvres. J'ai trouvé bon nombre de lettres d'officiers, de soldats de l'Est de la France ou du Sud de la France qui s'engagent parce qu'ils étaient sans travail. Alors eux, ils s'engageaient dans l'armée avec une vision de défendre la France aux frontières, mais comme la Vendée absorbait énormément de troupes, bon, ils ne voulaient pas démunir les troupes aguerries aux frontières, et donc ils prenaient des soldats qui n'avaient aucune formation de soldats. Alors, je pense que peut-être la moitié, c'était des soldats qui n'étaient pas aguerris et des soldats qui étaient des voyous, parce que les voyous sont rentrés dedans, parce que tout ça, il y avait des pillages. Alors, il est évident qu'il y a eu énormément de désertions et il y a eu des cas de soldats, évidemment, qui n'étaient pas d'accord avec le massacre de cette population, mais s'ils n'exécutaient pas, c'était eux qui étaient tués, qui étaient exécutés pour désobéissance. Donc, c'était vraiment une armée extrêmement hétéroclite. Les uns par idéologie tués et les autres tués parce qu'ils étaient contraints. Et dès qu'ils pouvaient fuir, quitter l'armée le faisaient. Pas cela. Donc il n'y a pas de. C'est un profil tout à fait comme on en trouve rarement dans les armées.
Voilà, mais il y avait quand même, comme vous l'avez dit, des idéologues. Et justement, un
Oui.
auditeur, là, enfin, on revient un peu sur ce que vous aviez dit au début, c'est que l'éradication du peuple vendéen n'a-t-elle pas été programmée par un pouvoir révolutionnaire? sanguinaire, idéologiquement formatée durant le XVIIIe siècle.
Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je vous disais quand on parlait que ce n'était pas des hommes, c'était des sous-hommes, c'était des animaux humains. C'était ça, c'était l'idéologie qui était derrière, l'idéologie du 18e et du 17e. Et donc.
D'ailleurs, là, je vous interromps, mais il y a un cas très intéressant, c'est celui de Voltaire. Enfin,
Oui,
Voltaire
puis celui
était
de
un homme
Voltaire,
extrêmement
Morcet, tout
fortuné,
ça.
et la fortune de Voltaire était le trafic d'esclaves. Hein.
Et dans mon livre, je cite le général Hugo, le père de Victor Hugo, que Hugo présente comme un humaniste. Eh bien, lui était près de Nantes dans une petite ville qui s'appelle le Château d'Eau. Et quand il est arrivé, il était programmé une descente de l'armée pour massacrer tous les hommes habitant la ville. Enfin, tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Et lui est arrivé là, il a réussi à force de discussion, à faire libérer 200 femmes. Et alors, dans ses mémoires, il s'en vante, ces pauvres femmes, etc. Mais il n'a pas du tout de compassion pour les hommes qui se sont fait massacrer, parce qu'on soupçonnait, comme ils étaient au bord de la Loire, d'être des passeurs, etc. Donc, il fallait éliminer tous les hommes. Et lui, il en parle sans compassion. Et à la fin, il dit, oui, cette guerre de Vendée est malheureuse parce qu'elle coûtait beaucoup d'hommes à la République. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a pas 36 façons d'arrêter la guerre de Vendée. Soit il faut envoyer des missionnaires pour convertir les Vendéens à la Révolution, soit il faut les éliminer. Il n'y a pas d'autre façon. Et c'était un humaniste, selon Victor Hugo, son fils.
Alors nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par votre serviteur Dominique Tasso. Et nous avons en ligne un invité, le docteur Jean-Maurice Clerc, qui nous parle des martyrs de Bouzauges, un massacre oublié durant les guerres de Vendée. Et nous aurons en fin d'émission une intervention de Marie-Pauline Desvart, professeure de droit public, collaboratrice de l'Action familiale et scolaire, qui nous parlera donc d'une occultation mémorielle lors du dernier 11 novembre. Et avant de reprendre cette émission, donc je signale que le docteur Jean-Maurice Clerc est l'auteur d'un livre, Le massacre oublié de Noël 1793, ce dont nous allons justement parler maintenant, sous-titré Enquête sur les 400 martyrs de Bouzauges en Vendée. Alors, ce livre est édité chez Pierre Tecky. Il coûte 24,90 €. Il est préfacé par l'évêque de Luçon, François Jacolin. Et sa mention me permet de revenir vers Jean-Maurice Clerc en lui demandant justement de nous raconter sa découverte, enfin, comment il a été amené à se plonger dans cette histoire du massacre oublié, pourquoi ce massacre a-t-il été oublié, comment a-t-il pu revenir en mémoire. Donc je vous donne la parole, Jean-Maurice, pour que vous nous fassiez comprendre à la fois, évidemment, ce qui s'est passé, bon, il faut aussi l'histoire, et puis pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire, et pourquoi ça a été sorti de la mémoire même des habitants, enfin. Et pourquoi vous avez eu du mal à faire ressortir la mémoire?
Oui, merci Dominique. C'est une affaire qui n'est pas banale, parce qu'en fait, j'ai mené une enquête policière et qui a duré au moins 25 ans. Parce qu'évidemment, je ne passais pas tout mon temps à faire ça. Mais c'est en 1991, vous voyez, c'est déjà ancien, fort ancien, une coupure du journal que mon prothésiste m'a mis sous le nez dans mon travail et m'a dit « Tiens, Jean-Maurice, toi qui t'intéresses à l'histoire, est-ce que tu as entendu parler de ça ?» C'était une coupure du journal sur 5 lignes, c'était peu avant Noël, et cette coupure du journal donnait un extrait d'une lettre d'un nommé Nogaret qui disait nous sommes rentrés à l'église de Bouzauges, nous les avons trouvés, les brigands bien sûr, et ils étaient au nombre de 400, il n'y a pas eu un seul survivant. Fatigués de tirer, nous avons commencé à sabrer et en un instant, nos chevaux avaient du sang jusqu'aux jarrets, on n'a jamais vu telle boucherie, etc., etc., etc. Et j'étais mis dans un journal régional sans commentaire, sans rien. Moi, je me suis dit, c'est bizarre ce truc-là. Et puis, je suis resté là. Et puis, à force de voir la coupure sur mon bureau, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je regarde. Je téléphone au correspondant du journal que je connaissais, qui était mon voisin. Et il me dit, oh, mais moi, je l'ai reçu d'un tel. Paf, 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 j'ai remonté. Et puis, tous, ils m'ont dit, oui, on n'a pas d'idée sur cette histoire-là. Je téléphonais à des historiens que je connaissais. Oh, c'est pas crédible, ça, cette affaire. Il n'y a pas de souvenir dans l'histoire, il n'y a rien. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de souvenir, donc c'est zéro, c'est une invention. Alors, je me suis dit, c'est quand même cavalier. Ces gens sont morts parce qu'ils assistaient à la messe de Noël, j'ai oublié de préciser. Et donc, pour moi, il y avait un aspect de martyr, puisqu'ils sont massacrés parce qu'ils étaient dans l'église pour prier le Seigneur, pour fêter la Nativité. Et je me suis dit, je ne peux pas essayer de tomber cette affaire-là. Alors, puisqu'on dit que c'est faux, je vais écrire aux archives de Grignan. Puis sur la lettre, il y avait une adresse qui avait été mise de Pierre Latte pour sa femme. Mais j'écris aux archives de Pierre Latte. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet ni quoi que ce soit. C'était en 91. Et puis les réponses se sont fait attendre. Alors je me suis dit, c'est quand même curieux, c'est bizarre, etc. Et j'avais de plus en plus envie de le faire. Ça me travaillait, je me sentais appelé approfondir le sujet. Et à un moment, moi j'ai travaillé 50 heures par semaine, j'avais 5 enfants, j'avais des obligations professionnelles et associatives. Je me suis dit, je n'ai pas le temps de m'en occuper, et je vais à l'église devant le Saint-Sacrement, et je prie le Seigneur, je lui dis, voilà, est-ce que c'est mon orgueil ou est-ce que c'est une opportunité que vous me proposez? Bon, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous? Voilà, c'était la question que j'ai posée devant le Saint-Sacrement en faisant une courte adoration. Je rentre chez moi, et ma femme me dit, tiens, t'as deux lettres, des archives de Grignan de Peyrelatte. Les deux lettres étaient arrivées ensemble. J'ouvre et j'ai confirmation que le personnage existait. Alors je me suis dit, bon ben voilà, j'ai la réponse du ciel. Et puisqu'ils existent, j'ai commencé une enquête. Alors j'ai donc commencé une enquête. Je me suis dit, bon, on va voir s'il y a un massacre au niveau de la population, il y a un impact. Alors j'ai commencé à étudier la démographie. J'ai réussi à me procurer les archives paroissiales de 1737 à 1792. Et donc j'ai pu étudier les familles sur ce laps de temps-là. Et puis j'ai bien vu, même dans les recensements, la population du bourg de Pouzauges de 560 habitants est passée à 230, sans explication. Alors les historiens disaient, bah, le recensement est mauvais. Donc, puis on était resté là. Alors j'ai fait mon enquête, et puis je suis monté à Paris, aux archives, et là j'ai découvert que mon fameux Nogaret était commissaire des guerres, de première classe. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mon personnage existait. Sa lettre, j'ai pu expertiser le cachet de la poste, me confirmer. J'ai mis un an pour trouver des spécialistes. Le cachet de la poste a été utilisé entre 1792 et 1794, donc pas de problème. Et le cachet de la poste était bon. Bon, c'est sur des petites choses comme ça. La lettre donnait des renseignements militaires qu'il m'a fallu vérifier, si c'était logique, si c'était pas inventé, etc. Ensuite, j'étais dans tous les sens, partout où je pouvais glaner des renseignements. Et puis le dossier a commencé à se monter tout doucement, et sans jamais trouver d'éléments objectifs contraires. Mais par contre, les gens qui savaient que je cherchais, ben non, perdez votre temps, c'est ça, ça sert à rien, vous trompez, etc. Il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Alors c'était très bien parce que moi j'approfondissais les arguments et puis je trouvais le contraire. Et donc, le dossier étant suffisamment avancé, j'ai reconstitué l'histoire dans le pays. Donc Pouzauges, qui était un bastion protestant et révolutionnaire, puisque il y a eu 12 villes qui étaient prévues de ne pas être brûlées et détruites pour que l'armée puisse avoir des bases dans ses déplacements. Et Pouzauges a été exactement la 13e, parce que le curé jureur dont j'ai parlé tout à l'heure avait acquis des propriétés, lui aussi, avait fait des démarches auprès de Turot pour que la ville soit épargnée. Et effectivement, elle était épargnée. Donc, à partir de là, j'ai fait un premier rapport. On est rendu en 1995, que j'ai envoyé à mes contacts et à des historiens. J'ai contacté, et ils m'ont dit, bah, c'est pas mal ce que vous avez fait, il faut continuer. Bah, mon but, c'était de passer la main, en disant, maintenant, et c'est un gros travail que les historiens peuvent mener, parce que c'est un travail d'archives et tout ça. Donc, n'ont pas voulu prendre la main. Moi, j'avais contacté l'évêque en disant, voilà, on a certainement un dossier de martyr. Et l'évêque m'a dit, je vous approuve, continuez. Et puisque les historiens ne veulent pas, ben, continuez vous-même. Voilà. Alors là, j'ai pris mon temps parce que je ne pouvais pas. Il y avait un temps énorme qui était pris. Mais il a fallu que je reconstitue l'histoire de Pouzauges, parce que Pouzauges, bastion révolutionnaire, ça ne s'est pas fait comme ça. Reconstituer l'histoire de Pouzauges, trouver tous ceux qui avaient été tués, massacrés, en tant que brigands. Et à ce moment-là, j'ai découvert un personnage que je connaissais, qui était Charette. Et pratiquement aucun historien n'a approfondi l'histoire de Charette quand il était encerclé dans les marais bretons, à Boin. Il a disparu. Enfin, c'est des anecdotes, ça. Si on avait le temps, c'est des anecdotes qui valent leur pesant. Et il réapparaît aux Herbiers, c'est-à-dire pas loin du Puy du Fou, comme un polichinelle sort de sa boîte, et puis il donne des déculottés aux armées républicaines qui ne s'attendaient pas à le voir. Et puis après, on n'en parle plus, on parle 8 jours après. Il arrive dans les Deux-Sèvres pour rejoindre la Roche-Jacquelin, pour unir les forces, ses forces, afin de délivrer la rive sud de la Loire pour la virée de Galerne dont que j'ai évoquée tout à l'heure. Il ne s'est pas entendu avec la Roche-Jacquelin et il est retourné de là, en repassant aux Herbiers, dans ses marais bretons. Et dans cette lacune, entre l'aller et le retour, en fait, Charette est passé à Pouzauges. Et c'est très important parce qu'il a resté 3 jours, il est passé à Pouzauges du 15 au 19. Il a reposé ses hommes, il n'a pas trouvé de renfort parce qu'il a battu la générale pour avoir des combattants, mais les gens savaient très bien qu'une fois Charette parti, les autorités révolutionnaires allaient revenir et avec les dénonciations, toute la famille passerait à la casserole. Donc ils n'ont pas voulu y aller. Et donc, Charette est resté 3 jours, se reposer, mais il était très bien reçu, il a eu des vivres, tout ce qu'il fallait. Et il y a eu un accrochage. On cherchait Charette, on ne savait pas où il était passé après les Herbiers. Et alors, du sud de Vendée, ils sont revenus réoccuper le poste militaire à 20 kilomètres au sud de la Vendée de Pouzauges. Et puis de là, une colonne de cavaliers est partie explorer le bocage. Et alors, ils sont tombés sur une patrouille de 8 cavaliers qui, elle, avait pour but de protéger, de sécuriser l'arrière-garde de Charette qui partait dans les Deux-Sèvres. Et donc ça s'échelonnait, ils franchissaient les collines et ça s'échelonnait sur plusieurs kilomètres. Et les derniers chariots qui partaient, c'était les blessés, les malades, les prisonniers. Et il est tombé sur cette arrière-garde et cette arrière-garde a eu la bêtise de revenir sur Pouzauges, donc entraînant une colonne de 60 cavaliers. Parce que l'arrière-garde pensait trouver l'armée de Charette, mais l'armée de Charette est déjà partie dans les collines. Et ils sont tombés sur tous les malades, les blessés et les prisonniers qu'ils ont commencé à massacrer et délivrer les prisonniers. Et alors ils en ont massacré, selon leur rapport, 200, avant, interrompu par l'arrière-garde de l'armée de Charette qui est revenue sur ses pas et qui les a chassés. Donc, c'est cet épisode-là que j'ai reconstitué, retrouvé les traces, parce que c'était pas cité dans les livres de la Vendée, donc il a fallu que je retrouve les documents, les archives, les rapports. Et je me suis dit, donc j'ai déjà un massacre là. Donc si je cherche l'emplacement du charnier du massacre de l'église, en fait, j'ai deux emplacements. Et je savais que j'en avais un troisième, parce que quand les colonnes infernales sont venues, elles ont fusillé dans le vieux château qui appartenait à Gilles de Rais, un compagnon de Jeanne d'Arc, ils ont fusillé une trentaine de personnes. Donc, il y avait un charnier de 30 personnes, un charnier de 200 et un charnier sur Pouzauges de 400. Alors, j'étais dans cette recherche-là et vous avez dit que j'étais dentiste pendant 40 ans à Pouzauges et à la fois, j'avais de très bons rapports avec mes patients et la population, ce qui fait que il passait chez moi un petit vivier de renseignements, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, j'ai pu avoir, par exemple, le propriétaire de. Quand j'ai suspecté le charnier de l'église, parce que j'ai les républicains qui tenaient la mairie en 1817 pour une question de cimetière, voulaient mettre un cimetière au-dessus du charnier des massacrés de l'église. Mais le même massacré de l'église, c'était dans une carrière. Donc, c'était pas assez grand pour faire un cimetière. Alors, ils ont proposé ça comme cimetière. Moi, je connaissais l'endroit. Parce qu'il y avait plusieurs carrières. Quand j'étais petit, j'allais ramasser les murs dedans, dans ces carrières, pour que maman fasse de la confiture de murs. Et donc, je connaissais l'emplacement, et donc le propriétaire passe, et il me dit, non, il n'y a pas de terrain au-dessus, on ne peut pas faire un cimetière, c'est pas possible. La roche à fleurs, donc même pour faire un pâturage, ça vaut rien. Donc là, j'ai eu la puce à l'oreille, j'ai retrouvé dans les archives municipales des traces que les municipalités patriotes avaient laissées. C'était très intéressé à ça. J'ai connu le propriétaire du terrain où Charette s'est reposé pendant 3 jours avec ses troupes et où il y a eu 200 massacrés. Et donc là, j'ai fait des expertises parce que 200 massacrés, il y a eu des fosses, il y a eu des charniers ouverts, c'est-à-dire on pose des corps sur les sols et on met des gravats et de la terre dessus, on met tout ce qu'on peut, mais on les enterre pas. Le gars, à chaque fois qu'il creusait dans son jardin, dans sa propriété, il tombait sur des squelettes. C'est épouvantable. Le chien est déterré des os. Alors j'ai fait des expertises, j'ai fait une déclaration à la DRAC qui ne m'a jamais répondu. J'ai une formation d'odontologie légale. Donc, je connais un peu, c'est l'équivalent de médecine légiste pour les dentistes. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Alors, je savais où étaient enterrés, j'ai fait des plans, je savais où étaient enterrés exactement les hommes de charrette. La carrière, quand j'émettrai et tout, selon les rapports que l'on a de la guerre 14-18, 39-45, et les charniers qu'on a découverts, par exemple, au Mans. Eh bien, j'ai pu faire une évaluation, on pouvait mettre 600 personnes dedans, en gardant 1,50 m d'épaisseur de terre. Donc, j'avais bien mes deux charniers, restait le troisième. Et là aussi, à partir des plans anciens, parce que, évidemment, quand j'ai cherché, j'avais une idée, parce que j'ai travaillé sur les plans, j'ai travaillé, parce que Pouzauges est sur une butte rocheuse, donc il y a des rues qui sont d'une déclivité très importante, sur laquelle une charrette ne peut pas passer, soit par la largeur, soit à cause de la pente. Il n'y a pas 36 chemins. Et un tombereau, ça comporte une vingtaine de corps, parce que ça fait déjà la tonne. Et donc, à partir de là, j'ai déterminé des emplacements possibles d'enfouissement des corps. Alors donc, j'ai repris le charnier à partir de l'endroit du vieux château. Et puis, j'ai tombé au bout du chemin, au pied des remparts. Alors, j'ai interrogé. Et puis c'était un ami, il m'a dit, mais là il y a des corps qui sont mis les uns sur les autres. Et donc j'ai trouvé mon troisième charnier. Mais le premier charnier où il y a les carrières, la Providence m'a aidé, enfin à chaque fois la Providence m'a aidé, parce que une voisine qui m'a fait son attestation, c'était une femme avec laquelle on disait le chapelet tous les jours à l'église. Et donc, elle m'a dit, oh, j'ai vu les ossements, tout le monde défilait dans le quartier défilait pour voir ça. Il y a eu donc, pour les 400 morts de l'église, on a construit un lotissement. Alors d'abord, une partie des carrières ont été supprimées, et alors on a mis à jour les ossements. Alors les gens étaient un peu badauds le dimanche, ils venaient voir les travaux, et puis ils voyaient les os qui dépassaient dans tous les sens, et ils disaient, oh, il y a dû y avoir un cimetière ici, mais il n'y a jamais eu de cimetière. Et l'entrepreneur qui a fait ces travaux-là, qui n'a pas fait de déclaration à la DRAC, j'ai trouvé ses ancêtres qui étaient maçons et côté protestant républicain, faisant partie de la garde nationale de Pouzauges. L'homme lui dit, tiens, tiens, c'est une tare de famille, ça. Il savait que c'était là, probablement. Et puis, j'ai trouvé, on a une aumônerie, c'était là où Charette s'est reposé, c'était un hôpital qui a été construit par Richard Cœur de Lion, et qui a été ouvert en 1204. Il a fait détruire à moitié la chapelle, et puis le terrain où des fusillés, eh bien, il a acheté le terrain et il a fait construire la maison de ses parents dessus. Et c'est en faisant les fondations qu'il a mis à jour le charnier, mais son fils l'a vu, les voisins l'ont vu, il y a des déclarations, donc je n'invente rien. Donc j'avais mes trois charniers et je les avais situés exactement au bon endroit.
Oui, donc avec les charniers, vous aviez un petit peu l'ensemble des éléments pour en faire ce livre que vous avez fini par rédiger. Je voudrais dire que, alors à titre personnel, j'avais eu déjà quelques échos de vos travaux sur les martyrs de Pouzauges, puisque dans la revue du CEP ont été publiés trois articles successifs qui concernaient ce sujet. Et il y en a un qui, pour moi, est presque le plus important. C'est un dans lequel vous faites remarquer que dans cette commune, qui est une commune de combien d'habitants, Pouzauges aujourd'hui?
6 000
6 000
personnes,
personnes.
oui.
Il y a eu au 19e siècle et au début du 20e siècle une quantité de vocations sacerdotales et religieuses tout à fait disproportionnée avec l'importance de la commune.
Oui, tout à fait, tout à
Est-ce que vous
fait.
pouvez nous donner une idée du chiffre?
Ah oui, alors il faut d'abord que j'explique que il y avait deux Pouzauges. Il y avait Pouzauges, la ville, bon, Pouzauges comme dans les cités anciennes, sur une butte. Sur la butte, vous avez le château, les fortifications et le bourg s'est développé. Autour, vous avez la campagne et là, c'est Pouzauges le Vieux. Et c'était deux communes séparées, c'était deux paroisses séparées. Et elles ont été réunifiées en 1821, ce qui fait que, pour donner les chiffres, je peux vous donner des chiffres, il n'y a pas de problème. Mais Donc, à l'issue de la guerre de Vendée, il restait 230 habitants à Pouzauges-la-Ville, c'est-à-dire dans le bourg autour du château, au lieu de 560. La campagne faisait 1100-1200 habitants. Et donc, à Pouzauges, on est parti de zéro, puisque toute la population qui a repeuplé Pouzauges, en dehors des révolutionnaires qui ont repris leur habitation, quand elles n'ont pas été détruites ou qu'ils ont réparé, c'était une population qui venait de l'extérieur. Mais nous avons eu la chance d'avoir un prêtre extraordinaire qui s'appelait Louis Brianceau, et pour moi c'est un très saint prêtre. Et c'était lui, il était en butte avec Dominique Dillon, notre curé révolutionnaire dont j'ai parlé, et il a été exilé en Espagne, et il est revenu en 1802. Et il a converti. Parce que Pouzauges était, enfin, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était pas un bastion catholique, hein, les catholiques étaient minorités. Alors il a créé des confréries pour le pardon, pour prier pour le pardon. Des confréries d'adoration, des confréries pieuses, qui ont pris tout de suite de l'ampleur. Et alors à partir de là, il y a eu une explosion des vocations. Il y a eu une explosion du culte. Pour les chiffres, je ne sais plus où j'ai mis enfin, tout
mais
ça.
Disons, ce sont des centaines de vocations, c'est ce que je voulais
des
dire.
Centaines. Oui, en fait, attendez, des centaines. La population est montée de 30, de 0% catholique, est montée en 1820 à 30%. En 1850, on est passé à 60-70%. Et en 1900, on était à 98% de catholiques. Alors, au niveau des vocations, ça a été assez extraordinaire. Excusez-moi, je regarde dans
non,
mes
mais
notes.
Ça n'a pas. Enfin, disons là, parce que nous arrivons quand même un peu au terme de cette émission, enfin, du moins dans la partie Pouzauges. Bon, ce qui est important, c'est de dire que un massacre de 400 personnes qui avaient eu le courage de venir assister à la messe de Noël à minuit, enfin, dans. Non, pas à minuit, justement, mais à la messe qui était interdite dans l'église de Pouzauges, ont été massacrés. Et ce qui est remarquable dans votre travail, c'est que vous avez retrouvé une lettre de celui qui dirigeait les massacreurs, et on a retrouvé, évidemment, donc ça c'était les éléments d'archives, et on a retrouvé les charniers où les morts de Pouzauges ont été enterrés, oui. Dont ces 400 martyrs. Et donc ceux qui voudraient en savoir plus peuvent évidemment acheter votre livre qui s'appelle « Le massacre oublié de Noël 1793 hein, » aux éditions Teki, hein, 24,90 €, hein, ce qui est, je pense, un livre très, d'autant plus intéressant qu'il est extrêmement factuel, reposant sur un travail d'archives. Alors malheureusement, il n'a pas été possible de joindre toutes ces archives dans le livre lui-même, mais ces annexes sont mises en ligne. Donc on peut les trouver sur Internet, donc pour ceux qui ont le livre en main. Et à propos de la richesse des vocations, alors évidemment on pense à la phrase de Tertullien, « Sanguis martyrum » Semen Christianorum, et il s'est passé la même chose chez les Cristeros. Le Guadalajara, qui était l'épicentre de la révolte Cristeros, a, mais aujourd'hui encore, des centaines de séminaristes, ce qui est un phénomène tout à fait inhabituel enfin, dans l'évolution de l'Église moderne. Donc, Jean Bruxelles, écoutez, je vous remercie. Oui, vous avez.
J'ai retrouvé les chiffres, vous m'attendez 2 minutes.
Oui.
Pas plus. Bon, c'est pour vous dire que jusqu'en 1965, après, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas repris les chiffres, il y avait 97% de catholiques pratiquants.
Voilà. Et quel est le message?
Alors, la communauté protestante a diminué inversement, et au niveau des vocations, de 1800, je parle pour le bourg de Pouzauges, de 1845 à 1965, la paroisse de Pouzauges a donné 59 prêtres et 200 à 300 religieuses. En 1965, il y avait encore 80 religieuses réparties dans 27 communautés. En 1960, il y avait 31 séminaristes, en comptant les petits et les grands qui provenaient de la paroisse. Pouzauges est la bourgade qui donne le plus de prêtres à la Vendée, et la Vendée est le département qui donne le plus de prêtres à la France. Voilà pourquoi je voulais terminer, mais c'était quand même important de le dire.
Oui, autrement dit, les Vendéens, d'une certaine façon, leur combat n'a pas été inutile sur le plan politique, puisque c'est ce qui a valu le Concordat, hein, même si on pourrait dire beaucoup de choses à propos du Concordat, hein, qui était très imparfait, mais il y a eu des fruits spirituels, et c'est vraiment la chose la plus importante, et il y a eu, malgré tout, une damnatio memoriae, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à cultiver, aussi bien dans la mémoire locale que dans la mémoire de l'éducation nationale et dans les manuels d'histoire, tout ce que pouvait représenter et apporter cette révolte des Vendéens. Alors je
Je peux
me
poser une petite
tourne.
question.
Oui, vas-y,
Je peux
oui.
poser une petite
Oui.
question. Dans le livre de Reynald Secher, La Mémoricide et Génocide au Mémoricide, en tête du bouquin, il dit à mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, à mes grand-tantes, etc. Donc il y a une mémoire familiale. Vous n'avez pas trouvé trace de mémoire familiale à Pouzauges? Il n'y a pas, il n'y a rien, rien.
Bon. J'en ai trouvé dans les bourgades à côté. Sur Pouzauges, je n'ai rien trouvé.
Ah oui. Et comment vous expliquez ça? Parce qu'ils avaient été vraiment exterminés complètement.
Oui, il n'y a pas eu de transmission. Possible, parce que les
C'est
nouveaux arrivants n'étaient pas au courant. Il y
ça,
a
ouais.
eu une omerta qui a toujours existé. Les catholiques étaient pacifiques par nature. Donc, il y a eu cette conversion par l'abbé Louis Briançon. Mais n'étant pas au courant, ils ont tout caché. La mairie et tout. Puis ensuite, la mairie, jusqu'en 1900 et même passé, la mairie était patriote, était républicaine. On a eu
Ouais.
les révolutionnaires qui ont été les premiers conseillers municipaux. Ensuite, c'était leurs enfants, les neveux, les petits-enfants. Donc, c'était nommé par l'administration. Il a fallu qu'on passe au suffrage universel pour que ça change les mairies. Mais la mairie a toujours été républicaine. Donc, ils ont ce terrain-là où était enterré, la municipalité en avait fait l'acquisition. Comme ça, ce terrain était sécurisé.
Pour la mémoire, pour l'absence de mémoire.
C'est ça. Non,
Mais
évidemment,
à la
qui.
sortie du livre, il y a des gens qui nous envoient leur mémoire, mais on n'a pas trouvé grand monde parce que tout le pays a été ravagé après par les
Ah
colonies
ouais,
infernales.
d'accord.
Et ensuite, quand les gens souffrent beaucoup, ils ne sont pas bavards. Je me souviens d'un vieux prêtre qui venait de temps en temps dire la messe à Pouzauges, il y a quoi, une dizaine d'années, il avait 78 ans. Et il disait, mon grand-père me disait que son grand-père reprochait à son grand-père de ne pas lui parler de ce qui s'était passé à la guerre de Vendée dans le village où il habitait, où ils sont tous été massacrés, sauf lui parce qu'il s'était bien caché et qui a tout vu.
Oui, maintenant, ça, il y a cette dimension que mais je connais dans ma
Ouais.
propre famille,
On l'a.
c'est-à-dire que mon beau-père a eu l'interdiction de ses parents de dire ce qu'il avait vu à la Libération. Donc, en France, effectivement, il n'en parle pas. Maintenant,
Et oui,
Marie-Pauline Desvartes.
et comme ceux qui ont vécu Verdun,
Oui.
Mais là,
ils ne voulaient pas en parler.
oui, alors
Ils
il y
avaient
a
trop souffert.
effectivement, il y a des choses
Voilà,
trop
mais pour
terribles.
revenir. Pardonnez-moi, mais là, on est en plus dans la blessure humaine que les gens n'aiment pas évoquer.
Oui, c'est
Les
ça.
gens qui ont énormément souffert ont une espèce de pudeur, et soit ils en parlent tout le temps, soit ils n'en parlent pas.
D'accord. Oui,
Oui.
oui.
Et là, c'était surtout n'en parle pas, surtout que le clergé avait pour mission d'apaiser la population, de pardonner. Et c'est pour ça que pendant 80, quand il y a eu le bicentenaire, on disait, les Vendéens n'oublient pas, pardonnent, mais n'oublient pas. Et ils ont pardonné, effectivement, encore que au moment de la sépa... au moment des inventaires, Pouzauges a été un point qui aurait pu faire exploser et changer le cours de l'histoire, parce qu'à Pouzauges, c'était explosif. Et si à Pouzauges, ça avait explosé, c'était tout le bocage qui explosait, qui était en émeute, et puis c'était toute la Vendée qui suivait. Et on aurait eu... le cours de l'histoire aurait été un peu modifié, là. Mais c'est surtout, on le voit sur les militaires qui ont beaucoup souffert. Il y a une pudeur qui fait qu'ils ne veulent pas en parler.
Oui, mais
Et
effectivement,
quand
il y a
ils en
la.
parlaient dans les
Oui.
familles, Une chose que ce qu'on m'a fait remarquer, on éloignait les petits-enfants, on éloignait les enfants pour pas qu'ils entendent les horreurs qu'ils avaient vues.
Alors, ça, bon, ça, ce phénomène, effectivement, ça, il est naturel. Des choses. Bon,
ça mériterait une émission.
La même chose, effectivement. C'est pas la même chose est arrivée. Je sais que je connais quelqu'un qui était dans un camp de concentration en Allemagne, qui a été libéré par les Russes, et il n'a jamais voulu parler, même à sa femme, de ce qu'il avait vu. Et par contre, il y a des points d'histoire bien connus, mais dans lesquels il y a une occultation intentionnelle. Hein. Et c'est ce point dont vous allez nous parler,
Oui,
Marie-Pauline Desvartes.
c'est-à-dire, oui, c'était pour parler d'un point qui a été relevé dans l'action familiale et scolaire. Nous en avons discuté ensemble et vous disiez, ben, ce serait bien d'évoquer ce petit article. Alors, on a déjà, comment dirais-je, parlé de l'action familiale et scolaire dans cette émission, hein, qui est une excellente revue. Et alors, cette occultation mémorielle, je dirais qu'on commence à en avoir l'habitude dans notre République, et elle concerne ici, à propos de la guerre 14, elle concerne la personne du maréchal Pétain. Hein. Et il y a un petit article qui a été fait dans Action familiale et scolaire par Charles Darcy, qui est un garçon qui est agrégé d'histoire et qui a l'art de relever, eh bien, des points très, très délicats de notre histoire, avec beaucoup de paradoxes, et qui faisait remarquer que au moment de la dernière commémoration officielle à l'Arc de Triomphe, de cérémonie du 11 novembre, eh bien, on avait honoré un tas de personnages de l'armée, et que on avait honoré bien aussi bien Joffre que Galliani que Foch, etc. Enfin, tous. Mais il y en a un seul qui n'est jamais honoré. Et je dirais qu'on commence à avoir l'habitude, et on commence tellement à avoir l'habitude qu'on n'y pense même plus. Eh bien, c'est celui qu'on appelle
Le vainqueur de Verdun.
le vainqueur de Verdun.
Ouais.
Mais rappelez-vous, quand on a, comment dirais-je, il y a quelques années, on a commémoré la victoire de Verdun. Vous vous rappelez qu'on avait fait courir des enfants sur les tombes, etc. La télévision a eu je dirais, comment dirais-je, commis cet exploit de parler de Verdun, de la victoire de Verdun, sans jamais, jamais, jamais parler du maréchal Pétain. Ça avait été très très fort. Et alors là, eh bien, à nouveau, à l'Arc de Triomphe, le 11 novembre, on a évoqué plein de personnages, mais on n'a jamais parlé de celui qui avait réussi à remonter le moral des soldats, qui avait réussi à, comment dirais-je, à faire cesser, eh bien, les condamnations à mort pour les désertions, etc., parce qu'ils en avaient assez, hein, et qui avait commencé la guerre en étant un simple colonel, on a fini par quand même lui donner des grades, hein, et qui a réussi à mener la France, là où elle en est, eh bien,
Alors,
à l'époque, à
là,
la victoire.
je vais me permettre
Oui,
de
oui,
donner
oui,
une
oui, oui.
petite anecdote, mais intéressante. C'est que vous savez que Pétain, malgré sa réputation en tant que professeur à l'école de guerre, qui était connu internationalement, etc., n'était toujours que
Oui.
colonel à la veille de 14, et il aurait dû prendre sa retraite très peu de temps après comme colonel. Et puis, donc, évidemment, la guerre est arrivée, et au moment, en condition de guerre, là, évidemment, l'avancement se fait aux compétences réelles et pas aux idées. Et à un moment donné, on l'a nommé général. Et il était à cette époque dans un. Son état-major était dans l'Aisne, dans un château de l'Aisne, et dans la nuit, quelqu'un a cousu des étoiles de général sur sa vareuse. Parce qu'il n'avait pas les étoiles générales, il avait le télégramme de nomination, et les étoiles qui ont été cousues sur sa vareuse sont les étoiles du général de Senlis. C'est-à-dire que sans.
Oui.
Il était dans le château
Ah
familial du
oui.
général de Senlis. Bon,
Belle
c'est
une
juste
belle
une petite
histoire.
histoire, mais voilà, c'est
Oui,
une belle
ah oui,
histoire
ah oui.
qui, je pense, n'a jamais été consignée par écrit. Et
Et
ce
nous?
que l'article de l'action familiale scolaire fait remarquer, c'est la similitude entre cette
Oui.
damnation mémoriée
Oui.
française
et au contraire
l'Union soviétique.
Oui, et l'Union soviétique, mais remarquez, les pays communistes sont comme ça. Hein, et on a eu la même chose d'ailleurs, Monsieur Leclerc nous le montrait tout à l'heure, on a eu la même chose, l'histoire a fait que tout a été effacé. Hein. Les assassins ne se vantent pas de ce qu'ils ont fait. Hein. Et les morts, eh bien, les morts ne parlent pas.
Et alors je ne crois pas qu'on ait été jusqu'à truquer les photos pour retirer la tête des ennemis de Staline comme on l'a fait en Union soviétique. Hein. Alors que ça serait aujourd'hui extrême, avec, je pense, tous les outils de graphique et l'intelligence artificielle, ça serait extrêmement facile.
Mais le communisme a vécu comme ça les effacements de personnalités. Hein. Et de la même façon, nous avons un paradoxe par rapport à la carrière du général de Gaulle. Hein. Le général de Gaulle, eh bien, à la télévision et dans les médias, on a fait le panégyrique de sa carrière sans montrer que le rôle qu'avait eu le maréchal Pétain dans la carrière du général de Gaulle. C'est lui qui lui avait mis le pied à l'étrier, qui a favorisé sa carrière. Et jamais, il n'a été donné de son rôle. Alors ici, on pourrait citer si l'article n'en parle pas, mais on pourrait citer les travaux de Jacques Boncopin qui fait tout le travail pour montrer cette occultation entre les deux carrières.
Alors,
dans son dernier ouvrage, dire il faudrait quand même réconcilier tout ça. Et là, c'est la vision chrétienne de...
Oui, bien sûr, parce que là, j'avais une question à vous poser. On évite de parler de Pétain, mais il a été frappé d'indignité nationale.
Complètement.
Alors, vous êtes juriste, qu'est-ce que ça veut dire, l'indignité nationale?
Vous n'existez plus, vous n'êtes plus sortable. Vous devez rentrer dans la...
Oui, mais est-ce que ça a des conséquences juridiques impératives? C'est évidemment un blâme public, mais...
Les conséquences juridiques impératives, là...
Est-ce que vous perdez votre droit électoral, par exemple, qui est un droit majeur?
Je pense. Hein. Je ne veux pas vous le dire de façon certaine, mais à l'époque, moi je pense, ah oui, il ne faut pas être frappé d'indignité. Il y a plein de postes où il ne faut pas être frappé d'indignité. Et certainement au niveau des votes.
Oui, hein. Remarquez, je pense que Pétain était vrai en fin de carrière. Il aurait même dû... il n'aurait pas dû accepter la responsabilité qu'on était bien content de lui confier en 1940.
Mais c'est ce que Franco lui avait dit. Franco lui avait dit, n'acceptez pas, ils vous refileront l'ardoise à la fin de la guerre. C'est ce qui est arrivé.
C'est bien ce qui s'est passé. Il est bien quand même que nous puissions le dire. Alors, quelques petites annonces. Alors, on me dit qu'il y aura à l'église Saint-Roch à Paris du 10 avril ou 11 avril 24 heures de messe en continu et 24 heures de rencontres avec des associations d'aide aux communautés chrétiennes dans le monde. Donc ceux qui sont proches de Saint-Roch pourront le faire. Je donnerai une conférence à Toulouse le 15 mars pour France Patrie. Donc ceux qui seraient intéressés peuvent s'inscrire à france-patrie.org. Et je dirai d'ailleurs la veille la même conférence à Perpignan. Et je rappelle qu'il y a eu hier une journée du CEP qui sera le moment venu mis sur internet. Vous pourrez être averti en allant sur le site du CEP, le-cep.org. Je rappelle que vous pouvez vous abonner, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui, au cahier Saint-Raphaël. Hein, revue de la CIM, Association catholique des infirmières, médecins et professionnels de la santé. Et on peut s'abonner en écrivant et en envoyant un chèque de 25 euros à ACIM, ACIM, 2 route d'Equillin, 62 360 Saint-Étienne-au-Mont. Et en ce qui concerne le CEP, vous avez le site le-cep.org. La revue Le CEP est une revue trimestrielle que évidemment, je ne peux que vous recommander. Et vous pouvez aussi prendre contact avec le secrétariat à l'adresse CEP, CEP, SIDEX 811, 16 rue d'Auxerre, 89 460 Bazarne. Donc, ceci nous met à la fin de cette émission. Je remercie le docteur Jean-Maurice Clair qui a bien voulu, de Pouzauges, se mettre derrière une caméra pour participer à l'émission. Et je souhaite à tous les auditeurs un très bon dimanche.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Dominique Tassot, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 1er mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Et si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.